Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mois d'octobre 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps? Actu DevOps est là pour t'aider à faire ta veille, et c'est une émission mensuelle que tu peux retrouver sur toutes les applications de podcast. En parlant de podcast, ce podcast est en licence libre, il est en CC by SA, ça veut dire que tu peux le diffuser, couper des morceaux, et il suffit juste que tu notifies, que tu dises d'où ça vient. Que ça vient de Radio DevOps et que tu nous envoies un petit message sur le forum, en commentaire YouTube ou autre. N'hésite pas aussi pour faire découvrir le podcast, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur les podcasts, à le diffuser, à l'envoyer par mail, à le diffuser en interne dans ta boîte, si jamais ça te plaît. Et surtout, à le noter et à le commenter. Tu peux nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir en tout cas. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Je suis avec René aussi.
Bonsoir Christophe et tout le monde.
Et enfin Damir.
Bonsoir ou bonjour à tous et désolé si mes chroniqueurs, mes collègues sont un peu fatigués, c'est de ma faute, je suis un peu en retard.
On va y arriver, ne t'inquiète pas.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et on va aujourd'hui parler de plein de sujets importants, et on va finir par un petit sujet positif, une petite news sympathique, donc reste jusqu'à la fin, tu verras, ce sera intéressant. Et pour commencer, c'est moi qui m'y colle avec un sujet pas des plus joyeux, mais bon, il faut qu'on en parle, parce que si tu es fan de jeux vidéo, t'as dû le remarquer, les prix des cartes graphiques flambent. Et encore, quand on en trouve. Et c'est pareil pour les consoles comme la PS5 ou la dernière Xbox. Il y a des pénuries de plus en plus nombreuses, mais surtout des semi-conducteurs qui sont en pénurie. Alors, c'est pas une news très récente, mais comme la pénurie, elle est pas prête de s'arrêter, en fait, je me suis dit que ce serait le bon moment pour en parler et faire le point. D'où est-ce que ça vient? Quels sont les impacts de cette pénurie? Combien de temps ça peut durer? Est-ce que l'on peut craindre des choses pour l'avenir de la tech avec ces pénuries de semi-conducteurs? J'ai trouvé de nombreuses sources qui expliquent le souci et je te les mets en description. Pour faire simple, le marché est en extrêmement forte croissance, ça se dit pas beaucoup ça, en très forte croissance, avec l'essor des objets connectés, et la crise du Covid n'a rien arrangé. En effet, il y a eu un équipement massif des gens qui ont dû, grâce au télétravail, acheter des centaines de millions de PC. Enfin, on parle de centaines de millions de PC un peu de partout. Bref, voilà. La fabrication a été perturbée par les confinements à répétition, et en plus, actuellement, il y a des restrictions énergétiques en Chine, où on fabrique une grosse partie des semi-conducteurs. Malgré le fait que les usines sont toujours plus grandes, les fournisseurs ne peuvent plus honorer les commandes à temps. Et bien sûr, à cela, on va ajouter les pénuries des matières premières qui sont à craindre pour l'avenir. Bref, les prix flambent et les précieuses puces sont de plus en plus rares. Ce qui entraîne l'émergence d'un marché noir de fausses puces. Ouais, j'ai appris qu'il y avait des fausses puces qui se vendaient aussi. Comme quoi, il y a du marché noir de partout. Les estimations prévoient un retour à la normale en 2022, voire 2023, ça reste flou et très lointain. Beaucoup de secteurs sont touchés et l'industrie automobile est en pleine crise parce qu'il y a énormément de semi-conducteurs dans les voitures, dans les GPS, dans l'électronique. Bref, la plupart des constructeurs ont été contraints de freiner, voire de stopper leur production, et notre cloud chéri n'est pas en reste. En effet, c'est un grand consommateur de processeurs et autres semi-conducteurs, c'est un élément indispensable des data centers. C'est pour ça, j'imagine, que Intel a annoncé en mars sa stratégie sur deux axes, le recours à des sous-traitants et le développement de la fabrication en interne. Intel va créer deux usines en Arizona pour 20 milliards de dollars et veut acquérir pour la modique somme de 30 milliards de dollars la société GlobalFoundries, une des plus importantes fonderie de semi-conducteurs au monde, avec TSMC qui est la plus grosse. Alors dites-moi, est-ce que vous, ça vous inquiète cette pénurie de semi-conducteurs pour l'avenir du cloud et de la tech de manière globale ?
Alors je peux peut-être commencer. Moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Alors c'est sûr qu'il y a une pénurie, comme tu le dis. Ça va forcément se stabiliser un jour ou l'autre. C'est problématique aujourd'hui pour certains clouds. J'ai connaissance de clouds qui ont des problèmes à cause de ça. Mais j'ai encore l'impression qu'il y avait un peu de marge. Enfin bref, il y a toujours de la place dans le cloud. Les délais sont beaucoup plus longs. Et je pense qu'on finira par s'en sortir. J'avais entendu dire aussi que les mineurs de Bitcoin avaient acheté aussi, enfin de crypto-monnaie en général, avaient acheté beaucoup de cartes. Donc les GPU, ça venait aussi de là, la pénurie. Mais voilà, mais bon, en tout cas pour le cloud, je me fais assez peu d'inquiétude dans le sens où je me dis que ça risque de passer.
Ouais, il va falloir voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai qu'il y a une explosion de la demande sur, comme tu le disais Mathieu ou Christophe, il y a beaucoup de secteurs. Il y a l'automobile qui est en explosion de demande parce que on pousse à renouveler du coup les véhicules pour des véhicules plus récents avec de l'hybridation ou full électrique, donc ça demande encore plus d'électronique en général parce que c'est des voitures qui sont plus tendances à être plus connectées. On a du coup des grands enjeux là-dessus, surtout qu'après le Covid, les gens ils ont tendance à racheter des voitures après alors qu'ils n'en achetaient pas pendant, donc il y a des commandes qui ont été décalées. On a effectivement une nouvelle génération de cartes graphiques, les nouvelles générations de consoles. On a le confinement, il n'y a rien qui a vraiment aidé là-dessus. Donc je pense que petit à petit, en fait, on disait qu'il y a une pénurie, mais on ne la voyait pas vraiment parce qu'on vivait encore sur les stocks tampons. Et là, par contre, sur l'avenir, on va avoir une explosion des prix qui va continuer, je pense. Et une des choses aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'au-delà des matières premières qui ont des gros soucis à être extraits en nombre suffisant, et aussi, du coup, comme on le disait, des usines qui vont construire du coup les semi-conducteurs, on a oublié un gros goulot d'étranglement actuellement, c'est tout simplement le transport, en fait. Le transport, donc tout ça, on ne va pas se mentir, hein, c'est envoyé par cargo, qui ne sont pas forcément les trucs les moins polluants ou les plus rapides. Mais il faut savoir que le prix d'un cargo, il était relativement faible avant, il était vraiment très peu cher. Il y a quelques mois, il était encore à 1 000 $, et là, il est passé à des chiffres, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 15 000, j'ai eu peur de me gourer dans l'ordre de grandeur, mais il me semble que c'est 15 000. En tout cas, le prix d'un conteneur, quand je dis un conteneur, c'est transporter un conteneur de Chine en Europe vide, a lui aussi explosé, donc il va y avoir une explosion des prix. Après, normalement, je pense que les clouds et les gros fournisseurs ont de la marge, et je l'espère. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai pour une fois fait preuve de chance. J'ai acheté une nouvelle voiture avant le confinement et j'ai acheté une nouvelle carte graphique en décembre. Donc moi, je suis bon.
Ce que je peux ajouter, c'est qu'on peut faire un petit ping à notre ami Benoît Petit qui nous dirait qu'il y a un reportage très intéressant de Philippe Biwix sur justement les matériaux et que c'est... Ça, c'est une tendance à la, donc effectivement à la raréfaction et que ça va être de plus en plus problématique dans le futur. Voilà, je ne suis pas forcément plus à dire que ce qui a été dit. Voilà.
Et si je peux rajouter, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux de souveraineté aussi. C'est que là, aujourd'hui, on voit qu'on a tout délocalisé en Chine et au final, c'est un spof. Hein. Si demain, vous avez un problème là-bas, du coup, vous êtes bloqué. Et du coup, là, on voit bien que il y a de la latence en plus, donc on risque d'avoir d'autres problèmes qui vont découler de ça. Si on avait une production plus localisée, on aurait sûrement un impact qui serait peut-être pas plus faible, mais en tout cas qui pourrait être résorbé beaucoup plus vite, et on pourrait avoir sûrement un meilleur contrôle sur ça en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi un des enjeux de la souveraineté, ça faut pas l'oublier, même si c'est quelque chose qui est plus matériel, on a tendance à parler plus du logiciel, là c'est vraiment... En pur matériel, c'est important aussi. D'où aussi le move d'Intel de rapatrier des usines aux États-Unis, je crois, notamment. Et en Europe aussi, ils ont des plans à terme. Donc, ça aussi un enjeu stratégique pour eux, c'est de pouvoir fournir au plus près et d'être plus réactif en cas de problème.
Oui, je ne l'ai pas dit, en effet, mais Intel a des plans pour étendre ses usines en Europe. En effet, l'autonomie des semi-conducteurs, elle est vraiment importante. Pour moi, j'y vois plusieurs avantages. Le premier, c'est comme tu le disais, éviter de faire transiter tous ces semi-conducteurs en bateau. Si on peut les fabriquer au plus près, c'est mieux. Et éviter d'être dépendant, parce que là, je ne l'ai pas dit, parce que la news était quand même grosse, mais du coup, l'Asie et la Chine ont un pouvoir, finalement, sur le monde avec ces semi-conducteurs qui est de plus en plus important. Et on l'a vu, il y a eu une guerre qui a été déclarée par Trump quand il a commencé à dire non, vous pouvez plus venir importer vos puces chez nous parce que voilà. Ça fait partie des sources du problème. Moi, je ne serais pas aussi optimiste que vous parce que la pénurie des matières premières, elle va être de plus en plus réelle et le coût d'extraction des métaux rares va être de plus en plus élevé. Ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que les puces qui demandent beaucoup de matières premières vont pas être de plus en plus chères au point que ça devient plus intéressant d'utiliser ces puces? Et moi, je me pose des questions sur est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut réduire notre consommation en puces? Est-ce que, justement, est-ce qu'on n'est pas vraiment en train de trop consommer de puces? De manière globale.
Pour le cloud, on peut toujours réutiliser le matériel, utiliser du matériel qui a plusieurs années, etc. Mais c'est pas ce que veulent les clients. C'est aussi ça. Il y a aussi une éducation à faire côté client où aujourd'hui, un cloud qui utilise du matériel un peu vieillissant, il sera tout en bas dans Cloud Mercato, donc le client sera pas content. S'il n'a pas les dernières générations de GPU, le dernier hardware pour faire du chiffrement ou du cloisonnement de mémoire sur les hyperviseurs, etc., on n'est pas certifié machin, donc ça va pas, on peut pas avoir des contrats gouvernementaux ou autres. Bref, tout ça vient aussi d'une demande client qui veut le dernier hardware, qui veut les dernières cartes, qui veut les dernières fonctionnalités de sécurité du hardware moderne, etc. Les clouds sont un peu forcés de suivre le mouvement s'ils veulent rivaliser avec la concurrence.
Et ça va pas s'arranger même au-delà du cloud si on regarde l'exemple de Windows 11 qui tombe à pic, qui va pousser aussi peut-être des renouvellements de PC. C'est pas le genre de chose qui va aider, on va dire, à tenir des objectifs un peu moins consuméristes, on va dire, au niveau des renouvellements d'appareils électroniques. Après, logiquement, il y aura un petit équilibre qui va se faire au moins avec le prix du marché. Si les prix explosent, les gens vont moins consommer, donc ça va se réguler à peu près normalement. Après, c'est normalement, c'est toujours la magie du capitalisme. Dans la théorie, tout se fonctionne tout seul. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est un peu Kubernetes, en fait, le capitalisme. Dans la théorie, tout se passe bien, ça s'autorégule. Dans la vraie vie, c'est... Ouais, des fois, faut y aller quand même.
Je crois que comparer le Kubernetes au capitalisme, tu m'as achevé là.
Ah ouais, non, mais j'adore faire des analogies. Hein. Maintenant, les gens, je pense que les auditeurs commencent à me connaître.
Moi, en tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer et je ne sais pas comment ça va évoluer parce que on a vu les dépenses liées au cloud, enfin les dépenses. L'utilisation du cloud va aller de plus en plus, de manière plus en plus importante puisque qui dit objet connecté dit stockage, dit traitement de données, etc. Donc, moi, je me dis, il va y avoir un truc là. Il va y avoir un truc. En tout cas, vas-y René.
Non, juste pour rebondir, après je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai laissé peut-être percevoir que j'étais pas inquiet. Non, je suis quand même assez inquiet. Moi, je suis tout comme toi, assez pessimiste sur le fait que tout aille bien. On voit qu'il y a quand même d'un sérieux problème d'énergie et de raréfaction des matériaux. Et à un moment, il va peut-être falloir se poser la question à quoi on va utiliser ce type de ressources, est-ce qu'on va pas pouvoir les utiliser pour des choses qui sont vraiment importantes et pas d'autres, on va peut-être arriver à des situations comme ça.
Je pense. En tout cas, si vous voulez approfondir ce sujet-là, on a fait 3 épisodes sur l'écologie. Je vous renvoie à la playlist écologie qui est sur YouTube et je vous mets le lien en description. Alors, René, puisque tu avais la parole, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler des problèmes qu'ont eu Slack et Twitch récemment, et on va pouvoir approfondir ces deux problèmes-là.
Oui, alors j'espère que vous allez m'aider, parce que c'est vrai que j'ai pas très bien travaillé cette fois, j'ai pas trop creusé le sujet, mais ce que je sais, c'est que la semaine dernière, en fin de semaine, Slack a eu un certain nombre de problèmes, manifestement liés à un changement de DNS. Ils ont poussé des nouvelles choses sur leur DNS et effectivement ça a eu un impact pour un certain nombre d'utilisateurs. En l'occurrence, dans mon équipe, on a été confronté au problème. On a eu, je pense, entre une journée et une demi-journée d'indispo de Slack, ce qui a été un petit peu pénible. Alors, c'était assez bizarre parce que effectivement ça touchait pas forcément tous les appareils. On le voyait pour les appareils qui utilisaient sur le web, on avait des problèmes, pas forcément sur les mobiles. Bon, c'était un peu compliqué avec le DNS, je pense que ça dépendait de quels étaient les fournisseurs. Mais voilà, ben même un gros acteur comme Slack, qui fait partie, qui a été racheté par Salesforce il n'y a pas très longtemps, une grosse société, ben, et parfois il peut avoir aussi ce type de problème. Voilà, donc on a vu ça sur Slack. Ben, je vous laisse un petit peu enrichir si vous voulez en dire un peu plus sur Slack, et après ben, je vais parler de Twitch.
J'avoue que l'incident Slack, j'ai pas trop regardé. Je pense qu'il y a à nouveau des gens qui sont exclamés pour dire ah, bah, c'est toujours le DNS quand il y a un problème. Le bon vieux classique.
C'est toujours le réseau.
Moi, j'ai vu en effet que les Slack de mes clients étaient tombés, mais chez nous, on n'était pas impacté parce qu'on utilise notre propre solution, hein. On est sur Froggit, donc Froggit était toujours là. Mais c'est un vrai problème parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent Slack et on va pouvoir parler justement de la centralisation avec une autre news plus tard. Donc, je garde mes problèmes de centralisation pour plus tard.
J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, on va dire. J'utilise pas non plus Slack professionnellement. Des pannes, ça arrive, donc voilà. Comme toujours, ça finit par revenir. Les gens se plaignent, mais rien de nouveau, on va dire. ça arrive. Faut en avoir conscience, et en effet, il faut réfléchir. On en reparlera, mais il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille quand c'est down, quand c'est un composant critique, on va dire.
Après, voilà, c'était pas forcément la pire des pannes. Et donc là, donc cette semaine, là, par contre, il y a eu un truc un peu plus hardcore pour Twitch. Donc Twitch a été victime d'un leak de données. Alors, je sais pas si à ce niveau-là, on peut parler que de leak, parce que là, on a peut-être dépassé un peu la fuite. Là, c'est un pipeline qui a cassé, là, par première vue. Donc, il y a eu une exfiltration d'à peu près 120 gigas de données, qui contient quand même des choses assez sensibles, à savoir qu'à première vue, l'archive se nomme Part 1, donc il y a peut-être un Part 2 avec et puis peut-être plusieurs parts avec donc encore des données qui ont fuité de chez Twitch. Et donc parmi les choses qui ont fuité, il y a quand même les revenus, enfin du moins le chiffre d'affaires des principaux streamers. Donc voilà la liste enfin classée de tous les streamers, combien ils ont gagné, etc. Apparemment assez détaillée. Il y a tout un tas aussi de projets internes qui ont fuité. Donc une certaine, je pense, certaines valeurs en R&D, enfin pas mal de projets assez intéressants. Donc ça a été traité, on mettra les liens, je pense, dans les notes de l'épisode, mais ça a été traité par différents articles. Et il y a aussi Micode qui a fait une émission sur le sujet avec un invité dont je n'ai pas le nom là en tête, mais qui est venu en parler. Et c'est assez intéressant, donc je vous encourage à aller écouter cette émission. Voilà. Voilà, je vous laisse la main si vous voulez ajouter des choses parce que vous en savez peut-être plus que moi sur le sujet.
Oui, alors l'invité, c'est Defund d'Intelligence. Si vous ne connaissez pas, c'est aussi un YouTuber. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube en description. Il y a beaucoup de choses qui ont leaké. Moi, ce qui m'intéresse d'aborder avec vous sur cette news, parce que le salaire, bon, moi, je m'en tape un peu. Mais par contre, tout ce qui est soft, c'est important parce que je crois... Enfin, j'ai jamais entendu parler de ce genre de leak avec du soft jusqu'à présent, et j'ai vu en effet dans des screenshots qu'il y avait du soft y compris. C'est ce qui m'intéresse là. Peut-être le code Terraform de l'infrastructure Twitch. Donc on en saurait peut-être plus sur comment est-ce que fait l'infrastructure Twitch, etc. Bon, moi je suis pas allé voir ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça peut en fait engendrer pour une société de voir leaker son code interne comme ça?
Il y a eu une analyse que j'ai vue quand même, je vais juste rajouter ça. Une petite analyse, je ne sais plus par qui, j'ai vu ça sur Twitter, où quelqu'un est un peu allé analyser ce qu'il y avait justement. Effectivement, il y a du code Terraform, il y a eu un peu des analyses en disant qu'il y avait en termes de contre-mesures justement pour les hacks et. Enfin, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais des contre-mesures pour du deny of service, des choses comme ça, que c'était assez avancé. Il y avait quand même des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Et l'autre chose que je voulais rajouter, quand même, que j'ai vu, c'est à première vue, Twitch n'a pas trop communiqué pour le moment. Ils ont commencé à le faire en disant que, par contre, en termes de, pour les utilisateurs, tout leur. Enfin, y a pas eu, y a, ils n'ont pas les cartes de crédit. Donc, les cartes de crédit n'ont pas fuité. Et aussi, à première vue, les mots de passe des utilisateurs n'ont pas fuité. Donc, et dans la foulée, ils ont fait un renouvellement, je crois. Ils ont demandé à un renouvellement de mots de passe pour tous leurs utilisateurs.
Voilà. Effectivement, c'est un leak assez massif. Donc, je pense qu'une des premières conséquences, c'est que Twitch va apparaître dans les compagnies qui contribuent plus à l'open source dans le prochain classement, ça c'est sûr. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je pense qu'on n'a jamais vu une quantité aussi grosse de leaks, que ce soit du code ou autre chose. Là, c'est vraiment important. À voir si la partie 2 est un fake ou pas. Pour info, on n'avait pas revenu dessus, mais ça a été leak par une personne sur 4chan, il me semble, qui a diffusé un lien torrent en expliquant que la compagnie était toxique et qu'il fallait qu'il y ait des compétiteurs. Donc, selon lui, il fallait... voilà, c'est fait pour que des compétiteurs puissent se construire là-dessus. Dans la réalité, je pense que voilà, il n'y a pas de miracle. Hein, ça va être plus compliqué que ça, parce que derrière, il faut savoir l'exploiter. Derrière, il faut savoir avoir les moyens d'acheter, de louer les serveurs, etc. Donc, c'est un peu... c'est pas aussi simple que juste make build, make Twitch, et hop, c'est bon. Donc, pour le coup, à voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de données personnelles aussi. Apparemment, il y a même des MP qui ont été leaked. Donc ça, c'est à voir après ce que ça a donné au point de vue protection des données. Et ouais, d'un point de vue business, bah, ils avaient un concurrent à Steam. Donc là, ça dévoile leur stratégie business et un peu ce qu'ils focus dans les prochains temps. Après, il y a toute l'intelligence qu'ils ont construite sur l'encodage et trucs là. Ça doit être des choses qui doivent être impressionnantes. Quand on voit la taille de Twitch aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant pour le coup. Donc à voir quand il y aura des gens qui vont prendre le temps vraiment d'analyser, de voir ce qui est exploitable, ce que ça va donner. Et effectivement, c'est... Alors après, pour l'origine du leak, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de gros doutes que ce soit un employé qui aurait leak en fait tout ça, parce que bah, là, il y a tellement de choses. S'il y a une faille de sécurité, elle a dû être gigantesque, ou la personne a dû être ultra patiente, parce que bah, même s'il y a une faille, généralement, quand il y a un trafic aussi gros, surtout quand on est sur du cloud, bah, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de partir, quoi. Donc, pour le coup, moi, il y a de grandes suspicions sur un ancien employé et de ce qu'on a eu comme témoignage déjà. Il faudrait que j'essaie de retrouver le lien, mais les employés auraient dit que la sécurité à Twitch, c'était pas leur point fort et qu'en interne, globalement, si vous étiez un GTEC et que vous étiez par exemple un développeur ou autre chose, vous aviez par défaut accès à la grande majorité des repos, y compris des données sensibles. Ce qui là aussi va pouvoir. Voilà. Va montrer en fait que bah, faut faire attention même en interne en fait et qu'une fuite ça peut arriver très rapidement et que bah là, ça peut être assez grave pour l'entreprise. On voit le cas à voir après ce que ça va donner maintenant dans les mois qui viennent pour le coup.
Je suis d'accord avec ça aussi. Sur la réutilisation du code, j'y crois pas une seconde. Hein. Comme tu disais, personne ne va construire un nouveau Twitch en se basant sur le code actuel parce que c'est trop spécifique. Et de toute façon, ça serait interdit parce que ça reste du code propriétaire de toute façon. Bon, bien sûr, personne ne peut vérifier, mais bon, ça m'étonnerait que ça se fasse. Et après, bah, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait chez les autres. C'est vrai. Après, moi, j'ai pas regardé. Ça m'intéresse même pas tant que ça, dans le sens où, bah, c'est comme je vous disais, c'est très, très, très spécifique. Twitch, c'est une grosse plateforme, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, etc. Mais bon, voilà. Vraiment pas de chance pour eux. Et après, bon, l'impact, on le verra sur le long terme. Comme disait Damir, je crois le plus embêtant pour eux, je pense, c'est dévoiler leur stratégie et leur R&D aux concurrents. Pas le détail c'est pas important, mais sur quoi ils font travailler finalement.
Bah, le détail, dites-vous qu'on galère généralement à reprendre le code d'un collègue qu'on a fait des vacances pendant 15 jours sur un petit script. Donc imaginez faire ça à une échelle de toute une entreprise mondiale. Donc voilà quoi, ça donne un peu le niveau de compréhension qu'il faut avoir. Vous irez sûrement plus vite à rebuild la moitié pour votre besoin.
Après, ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que ben, même des grosses sociétés comme ça peuvent, enfin, c'est ce qu'on disait, on l'a déjà dit plein de fois, peuvent se faire avoir. Tout le monde, personne n'est à l'abri. Et puis, ce que tu disais, que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est que ça peut aussi fuiter de l'intérieur, d'où y a certaines conférences sur la métaphore de la forteresse en termes de sécurité, où on dit que la sécurité périmétrique aujourd'hui, c'est plus tout à fait. Au niveau, et là, ça peut-être que ça le montre un petit peu même.
Alors moi, je vais un peu contrebalancer ce que vous avez dit, parce que je suis aussi streamer, mais pas sur Twitch, parce que justement, j'ai choisi de ne pas aller sur Twitch et de rester sur YouTube. J'ai choisi de tout faire sur YouTube pour justement pas me perdre, hein, pas apprendre d'autres plateformes, et je m'intéresse beaucoup justement au stream pour alimenter mes lives. Et il y a notamment YouTube, on a tendance à l'oublier, mais est un peu à la traîne par rapport à Twitch sur le live. Et à mon avis, YouTube ne va pas se gêner pour aller observer tout ça. Notamment l'algorithme de compression vidéo, l'encodage, qui est apparemment très efficace. YouTube a un très bon algorithme aussi, mais je pense qu'ils vont l'améliorer. Et ça va permettre, je pense, à YouTube de regarder ce que fait Twitch. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir. Finalement, c'est Google, ils ont le pouvoir d'analyser tout ça. Donc il y a probablement quelque chose qui va se passer là-dessus. Vas-y, Damir.
Honnêtement, je pense que c'est... je m'étais dit pareil pendant un peu au tout début. Après, je me suis dit, c'est... ils ont déjà leur... faut pas oublier que YouTube, c'est YouTube avant. Donc, niveau algorithme, et ça, ils s'y connaissent aussi pour les flux vidéo. Et je pense qu'ils ont déjà de très bons algorithmes et qu'ils travaillent encore actuellement dessus. Je pense que les algos de Twitch sont très bien. Ils ont aussi beaucoup bossé dessus, etc. Mais après, Google, est-ce qu'ils ont un intérêt à rebosser sur les mêmes algos ou juste améliorer le leur, sachant que ça va leur prendre le temps de compréhension de comment ça a été fait chez Twitch, pourquoi ça a été fait comme ça, etc. Et c'est, leur algo a peut-être aussi des points faibles. Donc, eux, ça va peut-être leur demander de recoder des trucs de leur côté. Je pense que ce sera plus rentable pour eux de continuer à améliorer leur algo. Parce qu'aujourd'hui, Twitch domine le game, entre guillemets, pour plein de raisons. Mais je pense que la raison technique, par rapport à... Je parle de Twitch vs YouTube. Je pense que YouTube, techniquement, il sait faire du live aussi bien aujourd'hui. Et si tu veux faire du live, techniquement, vraiment, je parle d'un point de vue technique pur, c'est-à-dire flux réseau, etc., chat, ça fonctionne aussi bien sur YouTube. Je pense que leur problème, il est tout autre.
Alors, le chat fonctionne beaucoup moins bien sur YouTube que sur Twitch, par exemple. C'est un des vrais problèmes, c'est que le chat est pas bon. Mais moi, je pense pas que YouTube va reprendre ce qu'a fait Twitch. Par contre, qu'ils vont regarder, c'est sûr, ils vont regarder ce qu'a fait Twitch pour voir ce qu'il y a en face, quoi. Ça m'étonnerait pas, ça.
S'il y a des bonnes idées...
Ça m'étonnerait pas. Maintenant, la question, c'est comment Twitch va changer, va s'en relever, comment va réagir Amazon, en sachant qu'Amazon, Twitch, c'est pas non plus comment dire, le service qui plébiscite le plus, je crois, que c'est plutôt un boulet pour eux qu'autre chose.
Tous les services de vidéo sont peu ou pas rentables, même YouTube, pour une raison très simple, c'est que ça coûte extrêmement cher en termes de stockage, en termes de networking, c'est la vidéo, que ce soit en streaming ou en rediffusion, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Donc, c'est très dur d'être rentable dessus. Après, le pouvoir est tout autre. C'est plus un pouvoir d'écosystème quand tu as une marque comme ça. Google garde YouTube parce que ça, dans son écosystème, c'est un grand pouvoir. Dans la réalité, c'est pas ce qui lui rapporte de l'argent aujourd'hui.
Ouais, et je propose qu'on rentre pas dans ce débat parce que sinon, on va bifurquer. Et on va parler de l'autre gros problème qui a eu lieu cette semaine parce qu'on est gâtés ce mois-ci. N'est-ce pas, Damir ?
Ouais, on va parler d'un autre gros problème qui a eu lieu il y a, pour nous, pas longtemps, pour vous, un peu plus, qui est tout simplement l'incident qu'il y a eu avec Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour rappel des faits, je me suis noté la date quelque part. C'était vendredi dernier, donc c'était... Non ? Bon, je trouve plus la date, je sais plus où je l'ai noté, mais c'est pas grave. Ouais, c'était lundi, je crois, lundi 4, si je me trompe pas. Il me semble, voilà, ça devait être lundi 4 ou aux alentours de cette date. Il y a tout simplement tous les réseaux appartenant à Facebook. Donc, je parle de l'entité Facebook, pas uniquement du site Facebook. Donc, ce qui est Instagram, Facebook et WhatsApp, non ? Et WhatsApp qui était down, donc qui était inaccessible un peu sur tous les réseaux. Et bien sûr, on a commencé très vite à voir, notamment sur Twitter, des personnes arriver et dire que plus rien ne fonctionnait, etc., et voir les différents hashtags sanctionnés. Quelques temps après, on a vu les premiers nous expliquer que c'était la faute du DNS, vu que le DNS ne se répondait plus. Et comme on le sait toujours, c'est toujours la faute du DNS, donc c'est forcément de sa faute. Sauf qu'en creusant un peu, en fait, très vite, les gens se sont aperçus que le vrai problème, c'était pas le DNS. En fait, le DNS n'est pas la root cause, mais plutôt une conséquence. Et que le vrai souci de tout ça, en fait, c'était simplement les routes BGP qui avaient été supprimées. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour vous résumer un peu comment fonctionne Internet, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais je vais essayer de re-résumer ça et re-simplifier ça. Quand vous avez un bout de réseau, donc quand vous êtes fournisseur Internet ou vous faites de l'hosting, donc vous avez vraiment des data centers avec votre propre réseau, etc., vous avez entre guillemets un bout d'Internet, donc sous la forme de rangs IP publics qui vous appartiennent. Ces rangs IP-là sont attachés à votre entité. Votre entité possède ce qu'on appelle un AS, qui va être votre entité réseau, en fait. Cette entité réseau, elle va avoir, du coup, ces différents ranges que vous pouvez répartir comme vous voulez. Mais il faut bien, à un moment, que vous annonciez aux autres personnes du réseau, parce que le réseau, on rappelle, c'est un ensemble de nœuds. faut que vous annonciez au reste du membre du réseau où sont vos adresses et comment les contacter. Donc pour ça, il y a un protocole qui s'appelle BGP qui va permettre de dire j'ai tel range d'IP qui m'appartiennent, range d'IP public qui m'appartiennent, il faut les renvoyer ici, etc. Donc en fait, c'est vraiment la base de tout. C'est, si jamais vous avez plus ça, ben, même si votre DNS fonctionne et qu'il y a une bonne résolution, il ne saura pas où router le paquet parce que le DNS, c'est quand même plus de la pratique. En derrière, il ne faut pas oublier que ça reste des adresses IP qui vont transiter. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème lors d'une upgrade apparemment. Toutes les routes ont été coupées une par une, donc elles ont arrêté d'être annoncées par l'AS. Donc les autres AS savaient plus envoyer le trafic de Facebook vu qu'ils savaient plus où contacter. C'est un peu comme si on enlevait tous les panneaux en fait tous les panneaux pour indiquer une ville. Bah du coup on savait plus trop l'amener. Alors les paquets plutôt que qu'aller un peu au hasard, ils restaient bloqués. Donc tout ça a fait que petit à petit, bah, tout leur réseau est devenu indisponible et tous les services aussi, y compris les services DNS. Ce qui explique le premier diagnostic qui accusait encore une fois le DNS, notre cher et fameux. Et pour le coup, en fait, ben, cet incident-là, il a été assez grave parce qu'il a duré assez longtemps, il a demandé une intervention physique et surtout parce qu'il a coupé tous les services. Ça nous montre bien de un que ben, tout le monde, quelle que soit sa taille, peut tomber aujourd'hui et peut avoir des problèmes. Et ça nous montre aussi l'importance, même quand on est un opérateur assez grand comme Facebook, bah que le pire peut arriver et qu'il faut prévoir le pire. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc pour le coup, là, ils étaient peut-être pas forcément les mieux préparés, dans le sens où les DNS étaient tous sur leur AS. Ça aurait été une bonne idée, par exemple, de les mettre sur un autre AS aussi, pour avoir au moins une tolérance de panne là-dessus. Ça aurait pu être intéressant, voilà, d'avoir des petites choses comme ça pour essayer en fait de mitiger les problèmes. Même si, encore une fois, un problème comme ça, 90% des entreprises se sont pris aussi en pleine gueule. Hein, faut arrêter de se leurrer là-dessus. Et clairement, les gens de chez Facebook sont pas non plus mauvais techniquement. Ceux qui disent ça, voilà. Il y a des raisons de choix et le risque quand même était relativement faible. Mais quand ça arrive, malheureusement, BGP, vous avez intérêt à avoir prévu quelque chose parce qu'il y a tout qui va péter derrière. Et pour faire un lien avec un incident qui est arrivé il y a quelques temps, il y a maintenant au moins 6-7 ans, il y avait eu un peu pareil en France avec beaucoup de sites d'information notamment, qui étaient dus à un problème d'une boucle BGP, si je me souviens bien, chez Oxalid, un RIP Oxalid qui aujourd'hui a été racheté par Claranet. Et du coup, il y avait eu un incident BGP qui a fait aussi que la plupart des sites étaient plus fonctionnels du coup pour des raisons similaires. Donc pour dire voilà que BGP aujourd'hui, c'est un protocole que peu de monde dans la tech connaît et qui est pourtant très important. Et que bah, ça peut toucher un peu tout le monde. Et quand ça vous touche, vous avez intérêt à être paré.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet incident, si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, les différentes choses qui sont dites dessus.
Ouais, donc faut pas jouer avec PHP. C'est pas... Effectivement, c'est quand même fondamental pour Internet. Protocole fondamental. Il y a eu des choses très drôles, notamment les mèmes qui sont passés, en comparant avec la Force Star Wars, avec Obi-Wan Kenobi qui a dit un grand bouleversement dans la Force quand ils font exploser Alderaan. Ils ont comparé ça avec la disparition de Facebook de Internet pendant un moment, c'était assez drôle. Pour être plus sérieux, je crois qu'en fait... J'aurais pas aimé être à la place du gars qui a poussé l'upgrade, mais en l'occurrence, il n'y était pas pour grand-chose. Apparemment, c'est quand même un bug, plus ou moins dans les firmware qu'il a poussé, qui ont conduit à ce problème-là. Donc, voilà, ça a été assez compliqué. Ils ont aussi eu un certain nombre de problèmes, apparemment, pour Ils sont très bons techniquement, ça, juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense que chez Facebook, il y a quand même des pointures. Et par contre, ils ont eu quand même des problèmes au niveau sécurité pour ensuite accéder à leur data center. Ils avaient besoin de faire des accès au niveau physique et ils ont eu un certain nombre de problèmes pour accéder à leur site. Enfin, ça leur a pris un peu plus de temps que prévu. Et puis, ben aussi, il y a eu un effet de bord pour tous les gens qui utilisent Facebook pour s'authentifier. Ben, pour le coup, ils ne pouvaient plus s'authentifier sur un certain nombre de services parce que Facebook n'était plus là. Donc, voilà, ça a été un peu pénible pour un certain nombre de personnes.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, le mème de la force, pour le coup, il est assez intéressant parce que dans l'histoire, en fait, les gens ont montré au niveau réseau, ils ont vraiment senti en fait des perturbations réseau sur tous les autres réseaux, parce que du coup il y a des paquets qui étaient en train de se perdre ou des interrogations réseau en boucle pour dire où sont les réseaux de Facebook, où sont les routes de Facebook, ce qui a fait qu'il y a eu effectivement des perturbations réseau. Et pour le coup, oui, il y a des personnes qui utilisent du coup que ce soit Google ou Facebook, on pouvait utiliser ce qu'on appelle provisionneur d'identité. Et le système d'authentification pour sur un site alpha, il va vous demander en fait de vous authentifier avec Facebook, etc. Et lui, il va juste se connecter sur Facebook et genre faire de l'OpenID ou quelque chose comme ça pour récupérer en fait un token et vous authentifier au travers de ce service-là. Et bien sûr, comme le disait René, si jamais vous utilisez ça, si le service votre provider pour l'authentification est plus dispo, ça marchera effectivement moins bien.
Ouais, du coup, on a senti les impacts de la panne de Facebook aussi sur Twitter, parce qu'à un moment donné, Twitter répondait mal, parce que justement, déjà, il y avait plus de monde. On a tendance à oublier, mais Facebook, c'est l'un ou le plus gros site du monde, il me semble, et que si les gens sont pas sur Facebook, ils vont ailleurs. Donc, à un moment donné, si tu as plus de 10% des gens de la planète qui vont ailleurs, tu sens ta charge monter. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Facebook maintient aussi des DNS, et ce qui fait que l'absence de ces DNS du réseau a dû en plus faire que les paquets réseau, en effet, ont surchargé d'autres DNS qui n'étaient pas forcément prévus pour ça, en termes de taille. Et outre l'authentification Facebook, il y a tous les petits widgets que vous voyez sur Facebook et autres, les petits trucs là, les petits boutons partagés, etc., qui font appel à du code qui sont hébergés par Facebook. Bah, tous ces sites-là, à chaque fois qu'ils faisaient des appels sur Facebook, qu'ils ne trouvaient pas, ils tentaient de rappeler à nouveau. Tout ça, ça ralentissait ces sites-là. Donc, en gros, Internet a été ralenti par le fait que Facebook n'était plus là. Et moi, ce que ça me fait dire, c'est: est-ce que finalement, on n'est pas arrivé avec ces géants-là à des géants d'une taille telle que l'absence d'un de ces géants, et on le sent, hein, que ce soit Facebook, Amazon Web Services ou autre, dès qu'il y a un problème sur ces géants-là, on sent que tout Internet tremble de manière globale, en fait. Est-ce que là, il n'y a pas un truc qui pourrait nous faire dire qu'il faudrait peut-être aller vers un peu plus de fédération et un peu moins de centralisation ? Parce que je ne sais pas si vous êtes... Alors Mathieu, toi t'es encore un peu jeune, mais je pense que René et peut-être Damir, enfin peut-être que quand vous étiez jeunes, Mathieu et Damir, vous avez connu l'internet un peu moins centralisé, un peu plus répandu.
Je pense, oui. Bah, déjà à l'époque, on peut dire qu'il y avait, on n'était pas sur les réseaux sociaux, mais on était sur des forums beaucoup. Chaque forum était maintenu par, dans les jeux vidéo, les trucs comme ça, par des particuliers. Je me rappelle même sur Counter-Strike ou les jeux comme ça en ligne, c'était des serveurs que les gens maintenaient, c'était pas des trucs gérés. Aujourd'hui, Call of Duty, je sais pas, c'est des serveurs, la partie démarre, voilà, on est sur un serveur. Avant, c'était maintenu par des joueurs. C'était quand même beaucoup plus décentralisé, en effet. Maintenant, c'est vrai que c'est centralisé. Bon, ça a du bien, ça a du moins bien. Moi, ce qui m'a fait bien rire pendant la panne, et même après, hein, dans les médias, etc., c'est les âneries qu'on pouvait entendre entre ceux qui disent non, mais ils se sont fait hack, c'est, voilà, toutes les théories du complot. Même sur les médias, là, dans des grandes radios nationales, j'entendais, oh ben non, mais c'est pas possible que ça soit down. Comment c'est possible que ça soit qu'un site web comme Facebook soit down pendant 6 heures, etc. Comme si c'était, je sais pas, l'internet, c'est de la magie en fait. Voilà, ça peut jamais être down. Je sais pas les gens hors tech à quoi ils pensent en fait. Je comprends pas comment ils voient l'informatique, mais il y a un problème de, même chez les journalistes, etc. Il y a tellement un problème de culture, on va dire, de culture tech. Mais moi, j'hallucinais quoi. C'était vraiment le facepalm permanent quand je voyais ce que les médias sortaient sur le sujet.
Bah, écoute, avant de me renseigner, moi je me suis quand même posé cette question-là. J'avais vu la panne de Slack et la panne de Facebook sans savoir ce qui s'était passé, elles étaient assez rapprochées toutes les deux. Je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas aller dans les années à venir vers des piratages massifs, etc. Bon, après, je me suis renseigné pour voir ce qui se passait, parce que bon, voilà, mais je ne me suis pas dit, c'est une panne, enfin, je n'ai pas répandu l'idée. Mais je me suis quand même posé cette question-là. Est-ce que il n'y a pas des actes de malveillance, et est-ce qu'on ne va pas aller vers des actes de malveillance, surtout quand on parle de géants comme ça, tu vois?
Alors, pour le coup, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. Il y a la première chose, en fait, qui est... c'est vrai que ces dernières années, on ne va pas se cacher, on a connu beaucoup d'incidents mondiaux. Alors, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que c'est le fait que de plus en plus de gens sont interdépendants, donc dès qu'il y a un problème, on va le sentir plus aussi. Ça aussi, c'est une raison, parce qu'il y a eu les fameux CDN qui étaient tombés, il y a eu Fastly qui était tombé, Cloudflare qui avait eu des soucis aussi il y a quelques mois. Donc on a eu déjà pas mal d'incidents assez majeurs, entre guillemets. Après, est-ce que la fédération est un système magique qui va tous nous sauver? Oui et non, parce que moi je suis sur Mastodon par exemple. Bon, on va pas se le cacher, Mastodon c'est 99% de gens, peut-être pas 90% de gens qui sont sur les instances officielles type Mammoth, etc. et qui vont être dessus, qui vont échanger dessus, et le reste des petites instances avec une moyenne de quoi 10 utilisateurs actifs. Et au-delà de ça, faut pas oublier une chose, c'est que il y a plusieurs niveaux entre guillemets sur la fédération, etc. C'est que, imaginons, on se dise, ok, on fédère tout le monde a sa propre instance, imaginons, de vie avec son mail, etc. dessus. Vous n'avez pas l'hébergé chez vous, en fait, parce que vous n'avez pas les moyens de redonder, etc., de faire du refroidissement chez vous. Donc, vous allez forcément regrouper au moins sur des data centers, des choses comme ça. Vous aurez déjà une première sorte de centralisation à un endroit. Après, je pense pas du coup que ça soit une vraie solution magique. Il faut être conscient que ça peut fail. Et au-delà de ça, pour la sécurité, la fédération est quelque chose de ultra compliqué. La fédération aujourd'hui, niveau sécurité, ça implique que chaque personne qui a son petit nœud le mette à jour, le maintienne, s'occupe de vérifier qu'il n'a pas été entre guillemets hacké. Et en fait, le fait de décentraliser ça et ses compétences, ça décentralise aussi les moyens. Faut pas oublier que par exemple, si on prend un exemple comme OVH ou AWS, ils ont des data centers, ils ont les moyens en fait d'avoir une vraie surveillance physique, d'avoir des méthodes qui sont un peu poussées pour faire effectuer cette surveillance. Si jamais vous hébergez ça chez vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va faire la garde 24 heures sur 24 devant votre porte en mode est-ce que tu as le laissé passer à 36 quoi. Non, voilà, c'est mm-hmm. Alors, ça, je pense qu'il faut faire attention à l'idéalisation de ça, en fait.
Justement, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit une solution, je pense que c'est une alternative. Par contre, je suis pas très chaud pour l'auto-hébergement. Je voudrais parler d'un service qui est décentralisé et qui n'a jamais arrêté d'être décentralisé depuis longtemps. On a tendance à l'oublier, mais le mail, c'est un service qui est décentralisé depuis sa création et jusqu'à présent, il n'est pas centralisé. Alors certes, il y a Gmail, mais ça reste un service qui est décentralisé, c'est-à-dire que tous les fournisseurs d'accès proposent des mails, etc. Et ça marche très très bien. Les DNS, c'est des services décentralisés. Donc, moi, mon truc, c'est est-ce que justement on pourrait pas avoir un peu plus de décentralisation pour l'avenir, pour justement faire souffler en fait les faire souffler, faire se respirer les gros réseaux comme ça. Moi, j'espère en tout cas qu'on va aller vers plus de décentralisation, mais maintenu par des boîtes. Par contre, pour le coup, en effet, pas par des personnes, mais par des boîtes et des plus petites boîtes. C'est plutôt ça que j'aimerais bien voir. Je cache pas le fait qu'il y aura toujours des gros, hein. Mais aujourd'hui, il y a une hyper centralisation et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à quelque chose de centralisé et à côté du décentralisé pour justement pouvoir avoir des alternatives.
Je comprends bien, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, par exemple, tes mails, etc., demain, si c'est OVH qui a un problème ou whatever, quel hébergeur a un souci avec son AS, tu vas avoir en fait les mêmes soucis entre guillemets et te retrouver avec plein de mails qui fonctionnent plus, même si c'est décentralisé dans l'idée. C'est qu'en fait, il y a un moment où rationnellement, je suis d'accord qu'on est trop centralisé sur certaines choses aujourd'hui, et je pense qu'il y a aussi beaucoup un problème de design dans les choses, et il faudrait qu'on fasse des choses de beaucoup plus robustes, et la démarche SRE normalement est censée identifier ces points aussi et essayer de faire des choses qui sont le plus robustes, même en cas de problème d'une des dépenses. Mais le vrai souci là-dedans, c'est ça reste quand même que tu es obligé à un moment de faire la rationalisation pour une question de coût, pour une question de moyens, pour une question, quand je dis de moyens, c'est humain aussi, on va être obligé en fait. Et il y a un équilibre à avoir, je pense, mais je pense qu'aucune des deux solutions ne fonctionnera à 100%.
Je suis d'accord, parce que de toute façon, même s'il y a des gros downtime aujourd'hui, on reste dans les SLA généralement. Il y a toujours du downtime, quelles que soient les plateformes, comme disait Damir. Par contre, très rapidement, vu qu'on parle quand même ici de réseaux sociaux. C'est peut-être moi qui idéalise l'époque d'avant. Mais moi, quand j'ai commencé sur Internet, c'est vrai, je parlais de Counter-Strike ou des choses comme ça, ou de jeux vidéo. C'est vrai que tout ça, c'était géré par des joueurs, les serveurs, etc. Enfin, moi, j'étais admin de plusieurs serveurs, etc. Et le truc que ça apportait quand même, c'était la modération. J'ai l'impression que le contenu était beaucoup plus modéré, que c'était beaucoup plus simple de bannir des joueurs parce qu'on avait la main sur les outils, alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, etc., il y a une absence complète, généralement, de modération. Là où, à l'époque, on pouvait se connecter sur des forums, des serveurs, etc., et être, on va dire, entre amis ou connaissances ou communauté avec une des vraies chaînes de modération, etc. Et ça, c'est un truc que je revois plus vrai, selon moi, sur Internet aujourd'hui, enfin, moins du moins.
Disons qu'à l'époque, c'est encore pareil, c'est tu délègues en fait en local, donc ça dépend des admins de ton serveur, mais ça peut aussi arriver d'avoir des serveurs ultra toxiques où les admins étaient toxiques et étaient en mode on laisse des gens se faire harceler parce que nous on s'en bat les couilles. Et ça en fait, c'est pour ça, disons que c'était vachement dépendant en fait. Aujourd'hui on est sur quelque chose de très globalisé, avant on était paradoxalement, même si aujourd'hui on est tendance à être plus dans une bulle filtrante, à l'époque on était plus sur une bulle de chat et d'instances qui faisait qu'on contactait moins l'extérieur et du coup qu'on avait tendance à je pense, moins voir un peu les choses néfastes ou les choses un peu hardcore, entre guillemets, qui se passaient à certains endroits. Je pense que c'est une question juste de design en vrai.
Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'époque dont parle Mathieu, c'était pas l'époque de la massification d'Internet. Hein. Faut pas oublier que avant Facebook et autres, les personnes qui étaient sur Internet, c'était une petite quantité de personnes. Aujourd'hui, il y a l'intégralité du monde qui est sur Internet. Avec les smartphones, c'est encore pire. Et donc, du fait, l'étiquette et la netiquette, si les gens qui nous écoutent ne connaissent pas la netiquette, renseignez-vous. Mais la netiquette, on la connaissait à l'époque. Aujourd'hui, j'ai des collègues de boulot, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas écrire un mail, ils ne savent même pas répondre à un mail ou changer le sujet. Enfin, pour moi, il y a aussi de cet ordre-là de l'éducation des populations qui sont sur Internet. Mais je vous propose qu'on...
Juste un dernier petit mot. Pour le coup, pour avoir été sur IRC quand même assez tôt, il y avait aussi quand même des sacrées communautés toxiques et des sacrées choses où il y avait zéro modération et ça partait sur du hardcore.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la massification fait que tu perds en éducation forcément par rapport à ton médium.
Et surtout, tu pouvais changer de salon IRC, ou de serveur, ou de... Bref, c'était le serveur Counter-Strike, il y en avait, je sais pas, 3000 en France. Ok, il y avait des trucs super toxiques, mais il y avait toujours la possibilité de changer, là où aujourd'hui, quelqu'un qui quitte Twitter ou quitte Facebook, c'est plus compliqué de trouver une alternative.
Ouais. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus positif, du coup. On va terminer, on va pas terminer, puisqu'on n'a pas encore terminé. Mais Mathieu, tu vas nous parler d'un nouveau service de Cloudflare.
Oui, alors en effet, je suis pas utilisateur Cloudflare, mais c'est une entreprise que je suis, comme beaucoup de monde, depuis longtemps. Et je vais vous parler d'une nouvelle annonce qu'ils ont faite récemment. Et c'est un nouveau produit qui s'appelle R2, donc c'est un produit de stockage qui est actuellement en bêta. Et finalement, c'est un service compatible S3, donc pour faire du stockage objet. Et la chose très intéressante sur ce service, c'est que la consommation en réseau en égresse, donc en sortie du service, est gratuite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait halluciner, parce que c'est souvent un coût important pour de nombreuses organisations, l'égresse, donc les données, le réseau en sortie d'un cloud, par exemple, chez Amazon. Et là, c'est gratuit, c'est très très surprenant, et ça met un gros coup de pied dans la fourmilière, hein, parce que je prends l'exemple de Corey Quinn, quelqu'un de très connu dans la communauté AWS du DuckBill Group. Je vous conseille de suivre son compte Twitter, c'est toujours très intéressant et très marrant. D'ailleurs, il est spécialisé AWS et il avait fait un calcul, par exemple, où il estimait les frais Amazon pour 1 million de téléchargements depuis S3 d'un fichier de 1 giga pendant un mois, donc sur un mois, à $53,000, là où le nouveau service de Cloudflare serait à 13 centimes. Donc on est vraiment sur une échelle hallucinante. Une différence d'échelle hallucinante. Pour la petite info, Scalaway a également commenté en disant que chez eux, ça irait de 0 à 10 000 euros le prix de ce stockage, d'un stockage équivalent. Donc 10 000, moi j'avais fait aussi le calcul chez Scalaway de 10 000 euros. Le 0, je ne sais pas trop d'où ils sortent, peut-être avec du glacier ou autre, mais bref, ça serait 10 000 euros sur leur service de base. Et avoir du frais, de l'égresse en gratuit, c'est vraiment assez hallucinant. Et surtout que c'est un produit qui s'intègre très bien avec leur système Cloudflare Worker. Donc c'est des workers du Functional as a Service finalement sur du Edge. Et également, ils ont des outils de migration pour migrer d'Object Store S3, on va dire, chez les cloud providers à chez eux. Ils ont l'intégration avec leur service DNS. Et même, ils présentent des use cases comme des streams de données ou de l'IoT. Enfin voilà, moi, j'ai vraiment été surpris par cette annonce. Et j'aimerais d'ailleurs voir plus d'annonces comme ça également de cloud européen, parce que ça, c'est un truc... Le Edge, le CDN et le FAS, on va dire, des choses comme ça, ou même le stockage au plus proche de l'utilisateur, donc comme fait Cloudflare, c'est un marché qui décolle pas mal. On le voit avec Netlify, on voit avec Cloudflare aujourd'hui avec leur offre S3 et leur Worker, on en voit d'autres, et c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, même si l'Europe rattrape son retard sur beaucoup de choses, on est très très en retard sur ces domaines-là, sur ce domaine-là précis. Et je me pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas seulement les leaders du marché qui peuvent tirer à ce point les prix vers le bas? Parce que il faut savoir qu'S3 chez les cloud providers, c'est un produit d'appel, hein. C'est pas le truc sur lequel les clouds font de l'argent. Donc baisser encore les prix, ça veut vraiment dire que l'argent doit être fait ailleurs. Et donc voilà, c'est aussi ça va vraiment faire une grosse concurrence, en tout cas sur S3 au niveau mondial, je pense, ce service Cloudflare.
Ouais, effectivement, c'est une offre qui est, comme tu dis, qui est cohérente, et on va commencer à pouvoir faire des apps serverless un peu sympa. Et du coup, on a la solution idéale, quoi. On va faire des apps serverless sur Cloudflare, et comme ça, serverless, on n'a plus de problème de pénurie de serveurs, et voilà, c'est emballé, on a corrigé le problème de début de podcast, hein. Non, mais pour le coup, à part dire des conneries, je vais essayer de dire un truc intéressant. C'est vrai qu'il y a une vraie cohérence dans l'offre produit qu'ils font, et on voit vraiment que toutes les briques, il les prévoit pour former une stack quand même qui est assez cohérente et qui fonctionne bien ensemble, et je pense qu'ils vont la pousser et ils vont pousser dans ce chemin-là, et je pense que c'est une bonne idée. Et il y a aussi, comme tu disais, un manque peut-être de... Comme tu dis, c'est un investissement pour un cloud provider, mais peut-être on n'est pas assez agressif en Europe là-dessus, et niveau commerce, on a tendance à être un peu trop passif, un peu trop suivant. Et on manque peut-être cet investissement, on va dire, en commerce, entre guillemets, pour avoir des produits qui donnent envie, pour le coup. En tout cas, je vais tester dès que j'ai un peu de temps, donc c'est-à-dire pas tout de suite.
En plus, c'est un modèle peut-être justement un peu plus décentralisé que les autres providers. Enfin, je pense que Cloudflare, c'est ce qu'ils visent aussi, c'est de l'architecture un petit peu edge, au plus près des consommateurs, et... Ouais, sinon c'est intéressant, hein, clairement.
En fait, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont construit leur offre. Je me dis que comme ils ont déjà un CDN très très bien implanté, est-ce qu'ils n'auraient pas mutualisé justement ces disques-là pour créer leur offre? Après, il y a une question qui est intéressante que tu soulèves, en effet, Mathieu, c'est l'agressivité commerciale. Je ne sais pas dans quelle mesure... nos acteurs européens qui sont peut-être plus petits, j'en ai aucune idée, comment est-ce qu'ils peuvent suivre commercialement pour faire des offres agressives? Moi, si je me pose la question avec mon pauvre petit SaaS là, on a acté il y a quelques mois qu'on n'aura pas de compte gratuit. Ah oui, alors si vous voulez venir sur Froggy, tu n'auras pas de compte gratuit, hein, mais... parce qu'on ne peut pas se le permettre. Tout simplement, on a fait des calculs et on ne peut pas se le permettre, et du coup... Comment est-ce qu'on fait pour séduire nos clients si on n'offre pas de compte gratuit ou si on ne fait pas des offres commerciales aussi avantageuses?
C'est du produit d'appel, hein, donc pour moi, vraiment. C'est-à-dire que le but, c'est de faire utiliser Cloudflare Worker. On l'a vu, hein, récemment, c'est un autre sujet, mais je le mentionne très rapidement, mais il y avait eu un peu un bad buzz sur Arnaud Montebourg qui avait utilisé des solutions US pour son site web, etc., etc. Mais je veux juste parler de la stack technique, c'était un peu pareil, c'est une Netlify avec du FAS, en gros, donc site statique et avec juste du FAS et un peu de stockage, voilà, sur du Edge. Et c'est des solutions qu'on va voir, voilà, c'est juste pour mentionner la solution parce que c'est pour des petits besoins et même des besoins de taille moyenne, finalement, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Et après, bon, d'où vient l'argent? Bah, pour moi, c'est créer des, voilà, là, je pense que Cloudflare, le but, c'est faire un gros produit d'appel S3 pas cher, etc. et avoir la majorité du revenu qui est toujours le CDN classique et les workers. Mais le but, c'est de faire venir les gens. Voilà, faire venir les gens sur le service. Et après, une fois qu'ils sont sur le service, on gagne de l'argent avec les autres produits. Mais voilà, ce type d'architecture, pour moi, ça va être de plus en plus présent, et c'est un truc qu'il ne faut pas louper le coche, je pense, sur les acteurs locaux.
Ouais, je suis d'accord. Là où je veux pointer du doigt un truc, c'est que Cloudflare, ils ont déjà un chiffre d'affaires peut-être conséquent et qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Vous, par exemple, chez vous, est-ce que vous pourriez vous permettre de faire ça avec votre chiffre d'affaires? Ou est-ce qu'il faudrait, non, soit que vous leviez des fonds? Tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire ce genre d'offre assez agressive si tu as les reins assez solides pour la supporter.
Ah oui, bah, c'est sûr, c'est comme AWS qui dit aux startups, bah, tenez, venez chez nous, voilà 100 000 balles. Personne ne peut faire ça en Europe, personne. Je veux dire, c'est impossible. Donc, en effet, il y a aussi un problème sur ça, c'est qu'au bout d'un moment, tirer les prix vers le bas, c'est possible, mais jusqu'à une certaine mesure, parce que comme tu dis, c'est des boîtes qui sont déjà bien installées sur le marché, mais c'est des gens qui sont là, et bien, les clients, eux, ce qu'ils voient, c'est le prix. Hein. Je veux dire, les considérations, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en pense, les clients, ils iront chez le plus compétitif si le service est bon derrière, parce que c'est un produit pas cher qui marche pas. J'ai pas envie de cibler, de taper sur toujours les mêmes, hein, donc je citerai pas de nom. Personne n'ira dessus. Mais si le service assure et que c'est pas cher, les gens iront dessus, surtout s'il y a des bonnes intégrations. C'est très dur de lutter.
Ouais. Je suis vraiment d'accord.
Après, il y a des choses qui sont. Enfin, les Américains ont cette capacité-là, et après, c'est même limite anticoncurrentiel, hein, c'est qu'ils sont capables d'acheter un marché, quoi, de mettre le fric qu'il faut pour limite à des moments vendre à perte, s'acheter le marché et ensuite, une fois qu'ils sont les seuls, remonter les prix, quoi. Donc, ça, c'est carrément... c'est limite déloyal.
Il y a acheter le marché, mais il y a créer le marché aussi.
Oui.
Les Cloudflare, le FAS, le Edge, etc., les Américains arrivent à créer du marché, créer des nouveaux besoins, créer des nouveaux produits, c'est-à-dire des nouvelles façons de travailler, des nouvelles technologies, vraiment. Ça, nous, on est suiveurs. C'est là-dessus aussi qu'il faut investir, c'est travailler sur des nouveaux use cases. Il faut beaucoup d'argent pour ça, c'est ça qui est compliqué, hein, parce que voilà. Mais ça, ils sont très 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 forts, sortir vraiment des trucs nouveaux. C'est-à-dire, ça n'existe pas, ça existe, et ouais, ils ont de l'avance parce que c'est eux qui l'ont inventé.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, et moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que nos amis américains, eux, ils ont la chance d'avoir un état... qui suit derrière et qui fait de la commande publique. Nous, on a nos États qui ne suivent pas. Malheureusement, nos gouvernements ne suivent pas là-dessus, ils ne font pas de commande publique. On sait vers qui passent les deniers français et européens. Juste pour faire une petite précision sur ce que disait René, j'ai fait une vidéo sur la stratégie du cricket. C'est cette fameuse stratégie qui dit qu'on va cannibaliser le marché même à perte pour que quand on soit en position de monopole, on puisse faire les prix qu'on veut. Donc je vous renvoie à cette vidéo, je la mets en description. Et je laisse la parole à René qui voulait intervenir.
Non, c'était justement pour préciser que c'est pas le cas de Cloudflare. En fait, Cloudflare, là, clairement, c'est de l'innovation, je pense. Mais après, voilà, il y a ce que tu disais, là, je ne savais pas que ça s'appelait la stratégie du criquet, mais ouais, c'est une pratique qui sont faites chez Amazon, le côté retail, par exemple, assez classiquement. Voilà.
Après, pour le coup, je pense que... Là, on a du retard. J'avais fait tout un article là-dessus que je pourrais vous mettre en commentaire, mais le retard vient pas que des investissements publics, il vient aussi qu'ils ont su capitaliser sur l'R&D qu'ils avaient fait en interne pour des gros sites qu'ils avaient déjà publics comme Amazon, comme Google, etc. Ils ont su capitaliser là-dessus au bon moment, entre guillemets, et ils ont su faire les bons investissements et la bonne offre de service au bon moment. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que même si on ne peut pas se permettre, on va dire, de faire des offres comme ça, il va falloir à un moment trouver une solution. Donc, c'est peut-être pas d'être aussi agressif sur les offres, c'est peut-être de réinventer des nouveaux concepts, de réinventer des choses qu'eux, ils n'ont pas encore, et de profiter aussi de notre taille et de notre avancée pour concurrencer là où eux ne peuvent pas, à cause justement de leur taille pour le coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des gros mastodontes. Si demain les paradigmes changent totalement, ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre, ils vont peut-être mettre un peu de temps aussi à faire le switch. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on peut gagner, qu'on peut, entre guillemets, arriver à concurrencer un peu tout ce système. Et c'est ce qu'essaient de faire des boîtes, ben, comme notamment Clever Cloud, comme Platform Message, qui essaient de se placer sur d'autres marchés encore, par exemple.
Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, effectivement, complexe militaro-américain, il pousse à fond. On sait qu'ils financent, l'armée américaine finance tout un tas de GAFAM, enfin, les ont financés à un moment, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais voilà, il y a beaucoup plus de solidarité à ce niveau-là, je pense.
Bah après, nous, ça dépend des domaines. Si tu vois, l'armée a quand même sponsorisé beaucoup de marques en France. Or, je parle pas de tech. Je pense juste qu'il y a eu un problème de virage de la tech. Et aujourd'hui, c'est un virage qui est trop peu connu. C'est peut-être des... En fait, je pense que c'est mal compris des politiques. Et ils voient très bien l'utilité d'avoir un char d'assaut made in France ou d'avoir un avion de chasse made in France, mais ils voient pas forcément l'intérêt du cloud. En tout cas, ça leur paraît moins important et moins dangereux aujourd'hui de faire autrement. C'est après, on rentre dans un sujet beaucoup plus complexe, mais je pense que le vrai problème, il est là. Il n'est pas sur l'investissement public. On sait en faire pour notamment l'armée, etc. On fait énormément. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. C'est vraiment, je pense juste que le marché technologique est mal compris par certaines parties des élites. Et c'est aujourd'hui ça qui fout un peu qui fout la merde, si j'ose dire, dans les investissements publics là-dessus.
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un problème de connaissance flagrante. Bah, déjà, quand on voit même... les ministres qui se succèdent au numérique dire des bêtises plus grosses les unes que les autres. Mais typiquement, en France, l'exemple de l'armement est un très bon exemple. On est le troisième exportateur d'armes au monde. Donc notre industrie de l'armement se porte très bien et notre président va vendre des chars d'assaut et des avions. Ça fait partie de ses prérogatives. Le cloud français, a priori, se porte bien en Europe, mais par contre c'est plus difficile à exporter, peut-être parce que en effet c'est mal connu ou parce que c'est difficile d'exporter quelque chose qui est territorialisé. Il y a peut-être ça aussi dans notre fameux cloud, c'est que, alors je parle que des solutions data center, hein, je parle pas de nos startups, parce que là la Startup Nation elle marche à fond, c'est un autre débat. Mais bon, je trouve que la comparaison justement militaire versus tech est très très bien parce que on a un passé de vendeur d'armes et ce serait bien qu'on ait un futur de vendeur de tech.
Après, je pense qu'il y a, tu dis qu'il y a aussi un gros souci, c'est la territorialisation. Oui et non, parce qu'on arrive à vendre de l'armement aujourd'hui, on arrive à vendre du Rafale et du Leclerc en vendant aussi derrière la main-d'œuvre et de ça qu'il faut pour les maintenir, sachant que les pays ne pourront pas les maintenir seuls. C'est un fait, on arrive à le vendre. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, on te parle d'aviation de combat, on te parle d'armement militaire, la France va être reconnue parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus. On n'a pas de savoir-faire reconnu en cloud parce qu'il nous faut encore du temps pour avoir une offre entre guillemets plus solide. Et c'est ça qui nous manque, il nous faut juste du temps et des investissements. Donc, est-ce que ces investissements doivent être publics, etc. C'est encore une autre question et je pense qu'on pourra en faire un épisode à part. Mais une fois qu'on aura ces investissements, je n'ai pas de doute qu'on arrive à le vendre.
Oui, je pense qu'on en fera un épisode. On va terminer sur un outil que nous a dégoté René, qui va devenir notre fournisseur d'outils officiels chez Radio DevOps. René, tu veux nous parler d'un petit outil. Alors, j'ai regardé brièvement et je suis assez curieux de savoir ce que tu vas nous dire dessus.
Oui, alors vous connaissez peut-être deux outils qui s'appellent Screen et Tmux, qui sont en gros des... Je trouve plus émulateurs terminaux.
Des multiplexeurs.
Multiplexeurs terminaux, merci. Et donc, c'est très pratique pour pouvoir laisser une session ouverte et se déconnecter, pouvoir survivre, par exemple, à une perte réseau de son réseau personnel quand on est connecté sur un système à distance, de faire du multi-fenêtrage, etc. Donc, des outils très pratiques et qui commencent à être... S'ils sont très performants, peut-être un petit peu vieillissants. Et donc, il y a un outil là qui est une alternative qui s'appelle Zedige, qui est le petit nouveau. Et je dirais son point fort, c'est par rapport à un Tmux où souvent c'est des combinaisons de touches et c'est assez difficile quand on l'utilise pas au quotidien de le prendre en main. Il faut se rappeler un peu les combinaisons de touches, etc. Puis c'est des combinaisons de touches des fois un petit peu rotor. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un bandeau en bas qui rappelle, on peut facilement ça fait un rappel des commandes. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un rappel des commandes usuelles et du coup, ça nécessite beaucoup moins d'efforts au niveau de la mémorisation pour les commandes. Et l'outil progresse assez rapidement. Et donc, je vous encourage à essayer de le télécharger, de l'utiliser parce que ça a l'air assez prometteur. Voilà, même si Tmux reste très très bien. Hein. Je veux pas dire que c'est un mauvais outil, loin de là. Mais voilà, une alternative qui peut être intéressante.
En effet, je crois que c'est écrit en Rust.
Absolument. Ah ben j'ai pas voulu le dire parce que
ah ben voilà.
On va dire que je suis orienté.
Ah ben voilà, ça a le point Rust. Ben bravo.
Rapidaise. On avait réussi à faire un épisode. Ben non, en fait. Bon, alors moi j'étais assez curieux parce que je suis un grand utilisateur de Tmux, même si ça se voit pas dans mes vidéos. À l'époque où je codais tout avec VI, avec Vim, j'utilisais énormément Tmux. Et pour info, dans Tmux, on peut quand même changer ses raccourcis clavier et mettre ceux qui nous plaisent le mieux. Moi, j'ai fait ma config, justement, qui est beaucoup plus facile. Alors, c'est vrai que, du coup, je vois sur les screenshots, avoir des... cette mémoire, c'est pas mal. Je suis pas sûr d'y passer, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt si c'est que ça.
Ouais, après si t'es super utilisateur de Tmux et que tu maîtrises Tmux, je pense que t'as pas forcément l'intérêt. Après, c'est plus pour les gens qui connaissent pas forcément ce type d'outil et qui seraient intéressés de jeter un œil. Je pense qu'il est un peu plus moderne et un peu plus facile à prendre en main. Voilà.
Bah, je me demande si justement, parce que Tmux c'est une gestion de plugins aussi, je me demande si justement il va pas y avoir un plugin qui va faire quelque chose comme ça. Mais Tmux, je pense pas que ce soit codé en Rust par contre.
Ah non.
Je pense pas non plus. Je sais pas en quoi c'est codé d'ailleurs Tmux. Bonne question.
Ouais, à mon avis c'est du bon vieux C.
Un bon truc.
Un bon vieux C des familles.
À l'ancienne, je dirais presque.
Ah oui, c'est du C. Okay. Ah, c'est du C. C'est
bon,
du C.
Mais c'est bon alors. Il pourra pas lutter, Zelige. Le C, il peut pas lutter. Je suis désolé.
Il peut pas lutter contre les. Les segmentation faults.
Non, ça c'est pas possible. Le C, c'est trop bien. Bon, merci René en tout cas pour cette petite découverte. Le lien est en description du podcast parce que je vois qu'on est en train de dériver, c'est pas bien. On va clôturer ici ce podcast. Avant de vous laisser le mot de la fin, je rappelle à notre auditeur qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Il suffit de venir s'inscrire et on l'accueillera les bras grands ouverts. On est déjà plus de 1000 dans la communauté à discuter et il y a toujours, de jour en jour et de semaine en semaine, de meilleures discussions, je trouve. Ça ne se tarit pas. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par, dans l'ordre dans lequel vous êtes sur mon écran, Mathieu.
Ah, le mot de la fin, ça me surprend toujours. Non, mais le mot de la fin, on a beaucoup parlé de downtime, on voit que ça arrive à tout le monde, je pense que c'est plus important, et je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas si grave au final, voilà, bon, ce stack est down, Twitch est down, enfin bon, Twitch est pas down, mais Twitch est fait hacker, mais ça changera pas le monde, Facebook est down, bon bah voilà, on peut vivre 6 heures sans Facebook, moi je bon, j'utilise quasiment pas, mais bon, finalement, faut aussi relativiser, je pense.
Tout à fait, relativisons avec René ton mot de la fin.
Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Que dire de plus que ce qui a été dit? Ben, pas grand chose. Effectivement, je pense que Mathieu a complètement raison. Tout ça, c'est de la tech, c'est sympa, mais le principal, c'est la santé. Voilà. C'est peut-être un peu bateau comme discours, mais ça, c'est fondamental. Et voilà, Facebook, disparaissent des radars pendant 6 heures, c'est un détail par rapport à d'autres choses. Et donc, voilà, ce sera mon mot de la fin.
Bah, je vais faire mon petit mot de la fin, moi aussi. Je vais rester sur ma définition de Kubernetes, qui je pense est très bonne. Kubernetes, retenez que c'est qu'une implémentation du capitalisme dans la vraie vie. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais il faut toujours être là pour lui donner un petit coup de pouce pour que tout rentre dans l'ordre. Et puis du coup, ça vous tease un peu le prochain épisode dont on va parler, parce que c'est un peu lié.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.